France Musique. Alex Dutil, Open Jazz, France Musique.
Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Véronique Chalmet. Dites-moi, je suis épaté non seulement par le dossier que j'ai vu dans la revue Ça m'intéresse Histoire, mais par l'illustration d'Olivier Balèze.
Magnifique.
Vous avez discuté avec lui pour l'illustration de ce dossier ?
En fait, on correspond essentiellement par mail et mais je dois dire qu'on est tout à fait sur la même longueur d'onde.
En tout cas, on est tout de suite dans l'atmosphère. Ouais. Et on va commencer par écouter Billy Holiday avant d'en parler ensemble. Je vois d'ailleurs sur la première page de l'illustration des corps pendus à un arbre. C'est ces fameuses strange fruits qu'évoquait Billy Holiday. Alors, on va pas écouter la chanson d'origine, celle de 1939, mais la version des années 50 ensuite, elle est aussi sublime.
Southern trees bear strange fruit. Blood on the leaves and blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant south, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rot, for the tree to drop. Here's a strange and bitter.
Strange Fruit, Billy Holiday, la version du 7 juin 1956 avec l'orchestre de Tony Scott, c'était Charlie Shavers à la trompette. C'est pas la version historique de la création de Strange Fruit, mais elle est tout aussi poignante. Peut-être, je me demande si c'est pas celle-là que vous préférez, peut-être Véronique Chalmet.
Oui, tout à fait, parce que je trouve qu'en plus, elle est vraiment de... Là, elle est, il y a un côté rugueux dans sa voix, et c'est du velours en même temps. Puis bon, c'est la fin, elle a fait des cures de désintoxication, elle s'en sort pas, mais elle va faire quand même l'Olympia en 58 en France. Enfin, c'est tout un mélange, elle est pétrie de paradoxes à ce moment-là, et c'est à ce moment-là qu'elle est la plus vraie, je pense.
Dites-moi, vous avez écrit, avant de ce dossier qui est dans la revue Ça m'intéresse Histoire, vous avez écrit un livre sur Billie Holiday, oui, aux éditions Payot, c'est bien ça?
Oui, absolument. Oui.
Et comment on fait quand on écrit un livre sur Billie Holiday? C'était assez récent, il y a 5 ou 6 ans? Un peu plus.
Un petit peu plus quand même.
J'ai parlé la semaine dernière d'un roman graphique magnifique co-signé par la dessinatrice Cattel sur Joséphine Baker. Mm-hmm. Elle a passé des mois et des mois aux États-Unis, en France, à aller sur place retrouver les endroits où elle avait vécu, se documenter, retrouver la famille, etc. Comment on fait quand on veut écrire un livre sur Billie Holiday?
Moi, j'ai pas fait tout à fait ça, mais j'habitais à New York à l'époque, ce qui tombait plutôt bien. Donc, j'ai écumé un peu Harlem, j'ai fait quelques clubs de jazz, je me suis mise dans l'ambiance, quoi. Et puis, j'écoutais tout le temps. Je me suis aussi beaucoup appuyée sur les articles de presse de l'époque. Enfin, il y a tout un tas de choses et il y a beaucoup de matériel.
Est-ce qu'elle a été de suite considérée, Billie Holiday, à ses débuts? On va l'entendre là, en 1933, dans le premier enregistrement d'elle. Est-ce qu'elle a été très vite reconnue à sa juste valeur? Est-ce qu'elle a mis du temps à se faire reconnaître?
Je pense que c'est allé relativement vite quand même, parce que elle commence à chanter au début des années 30. Avant, elle était surtout prostituée occasionnelle, et puis elle chantait dans des speakeasy, enfin dans des bars clandestins. Et puis, donc au début des années 30, elle commence à chanter, à trouver des engagements dans des clubs, et puis elle rencontre John Hammond en 33. Donc ça va aller assez vite pour elle, parce qu'en 35, elle fait l'Apollo, justement à Harlem, où là, c'est la consécration populaire, en tout cas d'abord.
Et bien juste avant, 1933, elle rencontre John Hammond et Benny Goodman. Le gendre de votre mère, Your Mother's Son-in-Law, c'est le titre de la chanson de Billie Holiday avec l'orchestre de Benny Goodman en 1933, les tout débuts de Billie Holiday. D'ailleurs, Véronique Chalmet, je rappelle que vous êtes avec moi pour cet Open Jazz sur France Musique pour la sortie de ce récit dans Ça m'intéresse histoire, Billie Holiday, la voix brisée du blues. Vous me parliez de 1935, mais entre 33 et 35, il s'est passé quelque chose d'important dans l'identité de Billie Holiday.
Oui, tout à fait, parce que en fait, elle avait pris pour nom de scène Billie Holiday, parce que Holiday c'était le nom c'était pas
la grand-mère de Johnny Holiday. Non.
C'était à une lettre près le nom de son père en fait. Et Billie, c'était d'après Billie Dove, qui était une actrice de l'époque, qui était aussi pilote, qui était une femme incroyable, qui a été la maîtresse de Ward Hughes, qui jouait avec Douglas Fairbanks, qui était très très belle et très émancipée. Donc voilà, Billie Holiday l'admirait. Et donc elle était Billie Holiday jusqu'en 1935, date à laquelle son père l'a félicité en fait d'être une aussi bonne chanteuse, quoi, après son triomphe à l'Apollo. Et là, elle a décidé qu'elle pouvait enfin prendre le nom de son père, avec tout l'honneur qui se rattachait et l'admiration qu'elle nourrissait pour lui, parce qu'il était guitariste rythmique. Et il ne s'était pas occupé d'elle, il l'avait abandonnée quand elle était jeune, mais elle le suivait par intermittence et il venait la voir régulièrement, mais il la présentait à chaque fois comme sa petite sœur, pas comme sa fille, parce que c'était un grand séducteur et puis...
Merci Oedipe.
Voilà. Oui, tout à fait.
1935, justement, Teddy Wilson embauche Billie Holiday, What a Little Moonlight Can Do. Thank you. La formation de Teddy Wilson en 1935, quelle distribution, Roy Eldridge à la trompette, Benny Goodman à la clarinette, Ben Webster au ténor, Teddy Wilson bien sûr au piano, John Kirby à la basse, Cozy Cole à la batterie et bien sûr Billie Holiday. Alors Véronique Chalbet, moi quand j'entends cette Billie Holiday là en 1935, on est à l'envers, enfin aux antipodes de l'image d'une vie mélodramatique. On a l'impression que c'est une jeune femme heureuse, on s'attend presque à l'entendre scatter comme comme Ella Fitzgerald. Il y a une légèreté de ton. Est-ce que d'ailleurs elle a eu scatter, Billie Holiday?
Alors oui, vers 26-27, elle écumait les
avant d'être enregistrée.
Voilà, ouais, tout à fait. Et puis elle sortait avec ses copines prostituées, et puis elle chantait, elle ramassait quelques billets au passage, mais elle scatait à ce moment-là parce qu'elle était fan d'Armstrong et voilà, elle essayait de suivre un peu les traces de son idole.
On va l'écouter là en 1938 avec Lester Young. Est-ce que vous êtes arrivé à éclaircir la relation entre Billie Holiday et Lester Young? Personne n'a jamais explicité le fait qu'il s'était une relation amoureuse. C'était plutôt manifestement une amitié amoureuse, voire une amitié tout court. Et pourtant, c'était une amitié à long terme.
Oui,
comment vous expliquez ça,
Véronique Chalmé? Je pense que c'était son plus grand amour. Tout simplement parce que je pense que c'était très fraternel, parce qu'avec tous ses amants ou ses maris, c'était le pugilat. En fait, elle avait un caractère très très fort. Elle a été maîtresse aussi de Ben Webster, justement, puisqu'on parlait de lui. Et à chaque fois, même quand elle les aimait et même quand ça se passait à peu près bien, elle restait pas plus de 2-3 mois avec eux. Alors que Press, c'est devenu son âme sœur réellement, et tout au long de sa vie jusqu'à sa mort. D'ailleurs, elle ne lui a pas survécu. Je crois que c'est pas un hasard.
Ils ont disparu à peu de distance.
Ben oui, à quelques mois près, puisque lui est parti le 15 mars 59 exactement, et puis elle le 17 juillet quoi. Donc.
Et ben voilà un titre prémonitoire. I can't get started.
Mm-hmm.
Billie Holiday, 15 septembre 1938. Alors là, elle est devenue patronne, Véronique Chalmet, parce que c'est Billie Holiday et son orchestre. Alors, il y a Lester Young, évidemment, qui fait partie de l'orchestre. Et on l'entendait là au saxophone ténor. Il jouait de la clarinette, parfois, aussi, avec elle. Et puis, il y avait un personnage pas très connu, mais puisque le surnom de Lester Young, vous savez, c'était Prez, le président. Mm-hmm. Et ben, il y avait une comtesse au piano. Comtesse Margaret Johnson, qu'on appelait Queenie, aussi. Mm-hmm. Elle était à la fois comtesse et reine, voilà. Elle était au piano, elle a fait partie de l'orchestre de Billie Holiday. On est en 1938, un an avant la fameuse séance historique de Strange Fruit, ouais. qui est un geste d'artiste engagé, avec ses paroles d'Abel Méropol alias Lewis Allen. Et vous me confiez, pendant qu'on on écoutait, que ce parolier avec lequel Billie Holiday a travaillé a aussi travaillé pour Sinatra et que Billie Holiday et Sinatra se connaissaient bien.
Oui, enfin, ils étaient nés la même année, tous les deux. Et puis, Sinatra avait une immense admiration pour Billie Holiday. Et donc, effectivement, il y a l'influence, puis ensuite, il y a des connexions comme ce parolier qui a travaillé pour tous les deux.
Et Sinatra avait sa voix de velours qui admirait donc le côté élimé de la voix de Billie Holiday. Et alors lors de cette séance de 1939 qui a vu la naissance de Strange Fruit, il a fallu un sacré courage à Billie Holiday pour oser la chanter, l'enregistrer et ensuite se battre pour qu'elle soit diffusée, j'imagine.
Oui, alors l'impulsion lui a été donnée d'une certaine manière par le patron du Café Society, le club où elle chantait, qui était dont la devise était le bon endroit pour les mauvaises personnes. Enfin, c'est une traduction approximative pour les personnes pas comme il faut, quoi, grosso modo. Donc c'était un club ouvert à tous et qui mélangeait noir, blanc, voilà. Donc c'était un club très à l'avant-garde. Et donc le directeur l'a encouragée à chanter cette chanson qui avait été écrite en 1937. Et elle la chantait toujours à la fin, de ses sessions. Et le noir se faisait à la fin de sa chanson et elle disparaissait. Et elle laissait les réactions. Alors la première fois, la réaction, ça a été un silence de mort. Les gens se demandaient ce qu'il fallait en penser, s'il fallait applaudir ou pas.
Cette chanson qui parle des corps pendus à des arbres après des lynchages, alors que ce sont des corps humains, évidemment.
Oui, il y avait une centaine de lynchages par an à cette époque-là. Les blancs, enfin 6 blancs sur 10 d'après divers... d'après un sondage que j'avais lu dans la presse de l'époque, n'était pas contre cette pratique, en tout cas ne protestait pas. Et l'accueil était si mitigé que... En 1939, quand elle l'a chanté, Time Magazine l'a complètement descendue. Alors que en 2000, le même magazine l'a sacrée meilleure chanson du XXe siècle. Donc voilà. Et d'ailleurs, la Colombienne n'a pas voulu l'enregistrer.
Oui, c'est Commodore qui avait publié la chanson.
Enfin, oui, c'était Commodore Records et elle a enregistré avec la bande du Café Society, justement, les musiciens.
Alors, la face B, on a entendu la version postérieure de Strange Fruit tout à l'heure. Du coup, là, j'ai eu envie qu'on écoute ensemble la face B. C'était Yesterday's.
Days I knew as happy, sweet,
enregistré le même jour que Strange Fruit, chef-d'œuvre de chansons engagées, un chef-d'œuvre musical tout court, ce Yesterdays par Billie Holiday, le 20 avril 1939, avec le piano de Sonny White. Il y avait Frank Newton à la trompette, Tab Smith au saxophone, la distribution du Café Society dont vous parliez, Véronique Chalmet. Moi, quand j'entends cette Billie Holiday-là, en 39, 15 ans après ses débuts, 20 ans après sa disparition, j'ai l'impression d'entendre la voix d'Armstrong, enfin, la voix de la trompette d'Armstrong. Il y a une façon d'énoncer les notes avec une affirmation, avec une façon toute droite de les lancer, qui est inaltérable. Et du coup, entre la Billie Holiday fragile des débuts, la Billie Holiday ridée, à la voix ridée de la fin, ben, il y a aussi celle-là, qui est totalement en maîtrise d'elle-même. Qu'est-ce qui s'est passé après pour que ça se déglingue petit à petit chez Billie Holiday, Véronique Chalmet?
Je crois que l'alcool et puis la drogue a fait son œuvre. En plus, en 41, elle épouse Jimmy Monroe, qui est un escroc, qui lui met de l'opium dans son café. Enfin, bon, voilà quoi. Et puis, elle va continuer, elle va ensuite prendre du LSD. Elle boit beaucoup de whisky, donc ça altère la voix, bien sûr. Et elle en prend pour s'éclaircir la voix avant les concerts, mais c'est pas franchement la panacée, quoi. Donc, il y a une lente dégringolade. En 45 aussi, elle perd sa mère. Donc, elle subit ce premier choc, parce que sa mère, c'était sa sœur, son amie, c'était tout pour elle aussi. Et puis, puis après, quand Lester va disparaître, ça va être vraiment la fin, quoi.
Mais justement, quasiment au moment de la disparition de Lester, en mars 59, la dernière séance de Billie Holiday, c'est pour MGM, c'est Ray Ellis, l'arrangeur. Il y a des cordes, il y a du velours, mais chez elle, comme je le disais tout à l'heure, la voix est élimée. Did I do?
Do I want you? Oh my, do I? Honey, did I do?
La dernière séance de Billie Holiday en mars 59, Did I Do, avec l'orchestre Ray Ellis. C'était en recevant dans cet Open Jazz sur France Musique, Véronique Chalmet. Merci de nous avoir éclairé sur Billie Holiday. Véronique, pour ce dossier dans Ça m'intéresse Histoire, c'est en kiosque jusqu'au 15 octobre. Et puis je rappelle que vous êtes l'auteur du livre au titre sobre, Billie Holiday. ça a été publié chez Payot Rivage en 2005.
Merci, je ne m'en souviens plus.
Je viens de le retrouver à l'instant. Et puis je signale aussi pour les gens que Billie Holiday passionnerait, Billie Holiday, le roman d'une rebelle que Sébastien Danchin avait publié chez Sony avec deux CD, avec une analyse très musicale de Billie Holiday. Je pense que vos deux ouvrages se complètent parfaitement. Merci Véronique Chalmet. Vous restez avec nous si vous aimez le jazz ?
Avec grand plaisir.
Alex Dutille, Open Jazz, France Musique.
Jazz au trésor. Tiens, je vais vous le confier, Véronique Chalmet, si vous faites des recherches. Le jingle qui nous permet de cibler chaque jour cette rubrique Jazz au trésor, c'est l'île au trésor, Treasure Island, par Keith Jarrett. Voilà. Il y a toujours une petite raison dans les choix musicaux. En tout cas, la raison qui m'a fait choisir le disque de René Thomas pour nous accompagner toute la semaine, c'est tout simplement que c'est une rareté. Guitar Groove, un enregistrement de ce guitariste belge, en 1960 à New York. En fait, il était parti à New York en 1956 en même temps que son copain Bobby Jaspar. Ils avaient fait le pari de tenter une reconnaissance professionnelle à New York. Ça continue à se faire aujourd'hui. C'est à l'époque, c'était un passage pas obligé, mais il y a un moment donné où ça devenait important pour la reconnaissance et la notoriété des musiciens. Ouais. Alors Martial Solal, par exemple, n'est jamais allé s'installer à New York, mais à un moment donné, il est allé jouer au festival de Newport, et tout d'un coup, ça a attiré l'attention des médias américains sur lui, parce que c'était un phénomène. Mais ça s'est passé pour René Thomas à cette époque-là, et le label Fresh Sound vient de rééditer le premier disque que René Thomas est enregistré aux États-Unis. Il s'appelait Guitar Groove, et aujourd'hui, on écoute une composition du saxophoniste J.R. Montrose, qui accompagne d'ailleurs René Thomas, Spontaneous Effort. Thank you. Spontaneous Effort, une composition du saxophoniste J.R. Montrose, qui était là aussi dans la séance de René Thomas. C'est une composition qui est démarquée du standard Out of Nowhere. René Thomas à la guitare, Rod O'Brien au piano, Teddy Kotick à la basse et Albert Tutihis à la batterie. La première séance d'enregistrement de René Thomas aux États-Unis, c'était en septembre 1960. Et ce Guitar Groove vient d'être réédité chez Fresh Sound. Je vous en reparlerai jusqu'à vendredi. Jazz Agenda. Dites-moi, Véronique Chalmet, quand vous viviez à New York, vous avez dû faire une série de concerts dans les clubs new-yorkais. Sinon, je vais vous gronder si vous n'en avez pas profité.
Si, si, bien sûr, le Blue Note, tout ça. Enfin bon.
Le Vanguard. C'était quoi votre club préféré d'ailleurs là-bas ?
Eh ben, pas des grands clubs. En fait, c'était moi ce que j'aimais bien.
C'était celui du coin de la rue.
Voilà. Et notamment, je me souviens d'une dame qui s'appelait Sweet Georgia Brown et qui chantait dans le Village, dans West Village, et dans un petit bar comme ça, et qui faisait danser toute la salle systématiquement. D'ailleurs, si on dansait pas, on se faisait engueuler.
Eh bien, écoutez, il y a une chanteuse à découvrir ce trimestre. Elle va faire d'ailleurs un rendez-vous mensuel qui commence ce mardi 13 septembre au Sunset à Paris. On la retrouvera au mois de novembre, au mois de décembre, etc. Elle s'appelle Lucy Dixon et elle vient de publier un album qui s'appelle Lulu is Back in Town. Ben, Véronique is Back in Town si elle est revenue à Paris.
First you say you do, and then you don't. Then you say you will, and then you won't. You're undecided now, so what are you gonna do? Now you wanna play, and then it's no. And when you say you'll stay, that's when you go. You're undecided now, so what are you gonna do? Well, I've been sitting on the fence, and it doesn't make much sense, 'cause you keep me in suspense, and you know it. When you say that you'll return, and you don't, I really burn. Well, I guess I'll never learn, and I show it. If you've got a heart, and if you're kind, then don't keep us apart, make up your mind. You're undecided now, so what are you gonna do? Show it. If you've got a heart and if you're kind,
decided now. So what are you gonna do?
Elle s'appelle Lucy Dixon, vous avez entendu, elle chante, mais elle fait des claquettes aussi. C'était elle qu'on entendait aux claquettes. Undecided, le standard de Sid Robin et Charlie Chevers. Elle sera donc au Sunset demain soir, à Paris, rue des Lombards. Lucy Dixon, voix et claquettes, avec Vincent Simonelli, la guitare, David Gastine pour la deuxième guitare, et Sébastien Gastine pour la contrebasse. On dirait qu'il y a une mafia à côté d'elle. Non, je plaisante, les frères Gastine sont des très bons spécialistes du jazz manouche, en tout cas. Rendez-vous avec Lucy Dixon au Sunset à Paris. Vous sortez dans les clubs parisiens aussi, Véronique Chalmet ?
Le Duc des Lombards, le New Morning, ce genre de choses. Oui.
Et votre dernier concert à Paris, par exemple ?
Eh ben, c'était hier au Philharmonique. Eh oui, McCoy Tyner.
À la Philharmonie pour Jazz à la Villette.
Voilà. Ouais.
Oh ben, vous avez pas mal choisi. À Colmar, il y a un festival aussi en ce moment qui se déroule jusqu'au 17 septembre. Il démarre aujourd'hui jusqu'à la fin de la semaine. Et demain soir, on pourra y entendre la chanteuse Cécile El Rekia, qui a consacré son album aux chansons, enfin aux compositions d'Ahmed Jamal, mises en parole.
There's no roaming about things, sure lie within your hands. Root your step to the ground. Remember this, don't look too far. Bear your goal in mind. If you wonder about the fruit, well, just get back to the roots. Once more, once again, still once more. Yo, heave, oh, ho. The boatman fell a stop, but twinkle with heart. One, two, three. Take your time. Go as surely as double gal. Boatman, though they strive, heave along the way once more. And again, if everything around is reeling, your strong belief will give you shelter. And though the task is not an easy one to take, trust you'll do well. Go to your faithful heart and let it lead. Stand firmly and reach to the sky. As the barges float along, the Volga boatmen sing their song. Hey, da, da, and to the sun as well, we sing our song. We sing our song. Thank you.
Volga Boatman, la composition d'Ahmed Jamal avec des paroles de Cécile Rekia. Cécile qui est donc demain soir à Célesta pour le festival Jazz à Colmar, chantant ce répertoire consacré à Ahmed Jamal en compagnie de Vincent Bourgeix au piano, Manuel Marchès à la basse et David Grébille à la batterie.
Open Jazz sur France Musique, Alex Dutille.
Jazz Culture. Et tiens, une exception, parce que normalement dans Jazz Culture, Véronique Chalmé, je présente un livre, une bande dessinée, un film, une série télévisée, enfin une expo, quelque chose qui n'est pas un support disque et qui a un rapport avec le jazz. Et là, j'avoue avoir été complètement étonné par la publication chez Eiler Records du Miroir des Ondes, composé et joué à la batterie et aux percussions par Michel Blanc, avec entre autres Marc Ducré à la guitare ou Antonin Raillon à l'orgue, qui sont des musiciens qu'on connaît bien dans le jazz contemporain. Et en fait, c'est tout un travail, ce Miroir des Ondes. Les ondes, c'est apprendre au sens du studio 143 où on est en ce moment sur France Musique. C'est les ondes radio. Michel Blanc est allé chercher des archives historiques dans la radio, celle du 11 septembre 2001, par exemple, mais celle de 14 juillet, enfin des événements marquants. Il a pris des discours ou des reportages en micro-trottoir, etc. Et de ces archives radio, il a eu l'idée d'en faire des éléments de mémoire qu'il allait traduire en musique. Exemple avec MDO numéro 3, au nez en 1980. Rappelez-vous ce qui était arrivé.
1. Au-delà des luttes politiques et de nos contradictions, c'est à l'histoire qu'il appartient maintenant de juger chacun de nos actes. Merci.
François Mitterrand est élu président de la République.
Thank you. jamais été établi une corrélation quelconque entre la présence ou l'absence de la peine de mort dans une législation pénale et la courbe de la criminalité sanglante. Entretenir l'angoisse, stimuler la peur, favoriser la confusion. On a mis en lumière, on a braqué le phare sur l'accroissement indiscutable, douloureux.
Un extrait de ce Miroir des ondes signé Michel Blanc avec la voix d'Annabelle Plaille, la guitare de Marc Ducré, le piano d'Angie Menez et l'orgue d'Antonin Rayon, signé Michel Blanc le batteur, et c'est donc chez Eiler Records, le batteur et le compositeur, parce qu'il a imaginé ce projet en incluant là par exemple dans cet extrait évidemment l'annonce de l'élection de François Mitterrand à la télévision en 1981 et puis celle aussi de l'annonce du projet de loi contre la peine de mort de Robert Badinter la même année. Il y a comme ça des d'extraits, de discours ou de prises de son sur les radios ou les télévisions. Du coup, ça fait un objet sonore non identifié avec des improvisateurs de jazz, mais on est dans l'actualité. Jazz bonus. Vous le savez, aujourd'hui sur France Musique, c'est une journée spéciale consacrée à une grande chanteuse russe. Eh bien, en son honneur, on va écouter un hommage à un grand compositeur et jazzman russe qui s'appelle Sergueï Kuryukhin. Il est décédé en 1996 à l'âge de 42 ans et le label Leo Records vient de lui rendre hommage avec un double album CD et DVD de ses compositions jouées par des jeunes musiciens de jazz russes d'aujourd'hui. On écoute The Roof de Sergueï Kuryukhin. la musique de Sergueï Kuryokhine dans le double album The Spirit Lives de Léo Records. C'est un clin d'œil à la journée Anna Netrebko sur France Musique dans Open Jazz. Avec moi pour faire cette émission, Frédéric Potry, Emmanuel Rose, Ben Kachmarek, Emmanuel Lacaze et Fabien Flora. Demain, dans Open Jazz, le chanteur Loïs Levent. Et je remercie très sincèrement Véronique Chalmé de m'avoir accompagné pendant cette heure pour son Billie Holiday. Merci Véronique.
Merci Alex, c'était un bonheur.